France Inter.
Bonjour Denis Chessou, vous nous faites découvrir aujourd'hui une vallée vosgienne d'Alsace.
Bonjour Éric Delvaux, eh bien oui, ça va être la vallée de la Bruche où on rouvre patiemment les paysages et on joue collectif. On vous retrouve à 19h.
À tout à l'heure.
Des poulets et des œufs en forme de cube. Les œufs cubes, ils sont plus faciles à mettre en boîte.
CO2, mon amour.
Et les poulets sans plumes.
On gagne du temps, on évite de la main d'œuvre.
Denis Chessou.
Goutte.
C'est du pétrole.
C'est exact. C'est exact. C'est... Alors maintenant, regarde.
Et voilà, c'est de la viande.
Oh.
Goutte.
Ah non.
Goutte.
Ah non.
Sur France Inter.
Ah bah oui, c'est un petit peu dystopique, mais c'est pas loin de la réalité. Comme ça, il vaut mieux éviter les plats ultra transformés. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec David Diboué-Black à la technique, Camille Blanès et notre assistante, et Xavier Pessugia, réalise l'émission. Qui commence par une petite humeur. Oh, c'est marrant, se disaient les quatre platanes de la place de la mairie. C'est la semaine internationale des forêts et les élections municipales en même temps. Eh ben, tu vois, avec les copains, transformés en pâte à papier pour faire des bulletins, on est un peu des faiseurs de démocratie. Bah oui, ça console un chouïa, mais beaucoup vont voter sans s'intéresser aux arbres ou à la nature. Ah bah oui, il y en a même beaucoup hein, de maires qui coupent les arbres en disant qu'on est dangereux, alors qu'ils veulent faire un parking à la place. Et puis ramasser les feuilles et nos racines qui poussent le goudron, ils aiment pas trop. Donc hop, on est déclaré malade et avec notre cellulose, on nous transforme en revue qui raconte tous les bienfaits que procure un arbre en ville. Voilà, la boucle est bouclée. Cela dit, on a davantage la cote avec le réchauffement à présent. Ils ont inventé les mots de climatiseur naturel pour désigner ce que nous sommes, c'est-à-dire en fait des arbres, mais comme on a si peu le droit d'exister pour nous-mêmes, il faut à chaque fois que les humains trouvent un truc utilitariste. Oui, on a toujours été bon pour vos têtes. On vous abrite, on vous apaise, on vous refroidit, on écoute ce que vous dites sous nos frondaisons, et vous êtes certain qu'on ne le répétera pas. Et toutes les paroles des amoureux, on les a en nous, derrière notre écorce, et elles nous font grandir. Et quand on s'exprime, bah en fait, c'est le vent qui fait parler nos branches. Ou bien ce sont les oiseaux qui se racontent leurs histoires d'emplumés. Les oiseaux, c'est une partie de nous-mêmes, vous savez. Enfin, bon, en fonction de leur bulletin, les humains peuvent choisir plus de cantines bio pour les enfants, de circuits courts, de transports doux, d'îlots de chaleur, de sols qui absorbent l'eau, de potagers dans les cours d'école. Et oui, t'as raison. Et puis aussi installer un nouveau médecin qui délivrera peut-être moins de médicaments si la nature est prise en compte et si on admet qu'elle vous soigne. Ou bien, bah oui, évidemment, un bulletin, ça peut être davantage de béton, de places de voitures, de panneaux solaires à la place de forêts, d'entrepôts logistiques. Bah oui, donc ça veut dire plus d'arbres à couper. Et dites, vous avez vu, cette année, le grand truc, c'est quand même le bien-être des animaux de compagnie en ville. Ah bah, il ferait mieux de faire voter directement les chiens et les chats. Hein. De toute façon, ils continueront à nous pisser dessus. Hein. Nous, tous les quatre, on n'est pas menacés. D'abord, on est classé platane vénérable. Et puis, on a des joueurs de pétanque, là, en dessous, de janvier à décembre. Nous, on est pour la pétanque. Bruit de boules qui s'entrechoquent, son des glaçons dans le pastis le jour, chouette qui niche dans le clocher le soir, et des oiseaux au lever du soleil à la tombée de la nuit. Ah, on peut peut-être aussi voter contre la chenille processionnaire, le moustique tigre, l'ambroisie, le frelon asiatique et le trot de perruches vertes qui envahissent nos branches. Oui, je sais, on peut toujours, mais là... Je crains qu'un bulletin ne puisse pas résoudre grand-chose. Alors, votez pour nous, les arbres, même si vous nous transformez en bulletin de vote, parce que nous, on tient toujours nos promesses. Et alors, nous allons ne pas être sur la brèche, c'est très amusant, mais on va être dans la bruche. Autrement dit, je vais vous faire découvrir cette vallée donc alsacienne. On va partir dans les Vosges, il y aura même aussi un débardeur à cheval. Bref, on va se faire du bien, on va quitter un petit peu les urnes et on va respirer.
Remember the news of you.
C'était Bel Italia sur France Inter, choisi par Thierry Dupin. Et cette vallée de la Bruche nous attend, et les Vosges en général, super massif.
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette vallée, c'est l'accueil qui m'a été réservé quand j'y suis arrivé, mais aussi la diversité des personnes et l'engagement de toutes ces personnes. Il y a des projets qui bouillonnent dans tous les sens, c'est une vallée qui bouillonne, et ça donne envie d'y rester. Alors je pense que le collectif est vraiment présent. Beaucoup de personnes cultivées sont arrivées dans cette vallée et ne gardent pas cette culture pour eux. Ils la distribuent, ils en font profiter les autres. Et du coup, c'est devenu une vallée qui est ouverte au niveau de la nature, mais aussi ouverte au niveau de la pensée et au niveau de l'accueil des personnes. Il y a aussi l'histoire de la vallée. Hein. L'histoire, il y a eu la guerre, bien entendu, mais il y a aussi son passé industriel qui a disparu. Un taux de chômage catastrophique, une pollution des rivières qui était hors du commun. Et le travail de tous les hommes de cette vallée ont fait qu'aujourd'hui, elle est de nouveau enviable. On a envie d'y habiter, on a ouvert les paysages. Enfin voilà, il y a vraiment un énorme travail qui a été fait depuis 40 ans. Et c'est une vallée qui est extrêmement accueillante.
Philippe Poulet, c'est un franc-comtois d'origine, donc il est presque voisin. Hein. Il est aujourd'hui arboriculteur, il fait pousser des petits fruits avec Jean Vouget à la salle. Et alors donc les Vosges, les Vosges, c'est un massif, une entité géographique qui est remplie d'identités singulières, géologiques, végétales, humaines, des parlers différents, une zone de contact entre le monde roman français et l'espace germanique, c'est ça. Alors les Vosges, elles naissent au sud, hein, en Haute-Saône et dans le territoire de Belfort. Elles vont se terminer dans le très joli parc naturel régional des Vosges du Nord. Donc, Alsaciens, Lorrains, Franc-Comtois sont les gardiens de cet héritage plusieurs fois millénaire. Le tourisme s'est développé avec l'industrialisation. Et donc, nous, on va aller dans cette vallée de la Bruche, dans sa communauté de communes, dans le Bas-Rhin. C'est une rivière de 33 km qui prend sa source dans le versant occidental du Climont. D'abord, une grande cuvette ensoleillée. Et puis après, vous avez la main des forêts qui se referment sur les êtres et leurs richesses, le bois. Et la tempête de l'hiver 99 fut en fait un mal pour un bien, parce que les arbres à terre, la lumière est entrée et les esprits ont changé, on y reviendra. Alors je vous propose donc un regard sur cette Bruche qui cultive à la fois un esprit d'indépendance et aussi du collectif. On pense, on fait, on chante, on prie ensemble, que l'on soit protestant ou catholique. La nature n'est pas qu'un lieu à exploiter, elle permet aussi d'élever les gens et les âmes. Et on va refabriquer du paysage. Alors, on est dominé par le Champ du Feu, le Donon, voilà. Et puis, on est à la limite des Vosges graisseuses au nord et des Vosges cristallines au sud. Et donc, on va commencer par le bas de la Bruche. On est à Urmat. Après, on ira vers le nord, vers Salles et Bourbruche. Et là, nous rencontrons Frédérique Naudufour, qui est historienne et amoureuse des lieux.
C'est une drôle de vallée parce qu'elle est à cheval entre l'Alsace et le reste de la France. Donc, c'est une vallée où on parle à moitié alsacien. est à moitié française, selon le côté où on se trouve. Et c'est une vallée quand même très vosgienne, avec des couleurs sombres, une espèce de densité de paysages à cette saison qui sont entachés par des taches mordorées là, de l'automne. Donc c'est magnifique.
Et c'est quand même une entité, je veux dire, à part entière. C'est-à-dire que, de même que l'on peut parler de l'Alsace-Bossue, du Sundgau, on peut parler du Ried, il y a donc la Bruche.
Il y a une histoire spécifique de cette vallée, parce qu'elle a été donc à la frontière des deux entités. Elle a changé à de nombreuses reprises de propriétaire, si on peut dire. Et puis, en fait, une vallée, c'est un monde en soi, où les gens ils se connaissent depuis longtemps, où ils ont peu bougé pendant des générations. Et ça crée un espèce de microcosme ou de biotope avec ses habitudes, ses rythmes, ses fêtes de village. Et donc, aucune vallée ne ressemble à une autre. Et ici, c'est une vallée accueillante qui est traversée par ce torrent qui s'appelle la Bruche. Et c'est une vallée en même temps qui est marquée extrêmement lourdement par l'histoire.
Alors là, c'est bien parce qu'on va laisser passer ce merveilleux autorail qui relie en fait l'Alsace et puis la Lorraine, hein, c'est ça ?
Exactement, c'est un train qu'on va entendre qui va donc de Strasbourg jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges.
Ouais, c'est ça.
Cette voie ferrée, c'est une artère, c'est ce qui permet de relier les habitants tout le long de ce ruban qui traverse la montagne. Il permet aussi de relier deux vallées et c'est une artère vitale.
Parlons aussi quand même de ce qui réunit un peu les gens, c'est-à-dire le paysage. Et il y a quand même une entité, je ne vais pas en faire non plus un lieu énorme en matière d'écologie, mais on fait quand même attention, on prend soin des paysages quand même.
Oui, ici on prend soin des paysages, il y a des véritables efforts qui sont faits de sensibilisation des habitants, mais aussi de construction en faveur de la biodiversité. Récemment ont été construits des passages, moi je trouve ça fascinant, des passages pour le gibier, c'est-à-dire qu'autrefois on a détruit toutes les haies, et maintenant on replante des haies pour que ces bêtes puissent aller d'un versant à l'autre de la vallée dans cet environnement qui est le leur.
Alors Maron, oublions la guerre. Il est difficile d'oublier que vos soldats assiègent Strasbourg depuis 3 semaines et que vos canons bombardent notre cathédrale.
C'est la guerre.
Alors l'historienne que vous êtes est tombée complètement amoureuse de ce lieu. Vous avez travaillé sur Paris, vous avez travaillé sur De Gaulle, vous avez travaillé donc sur toute l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale qui imprègne totalement les territoires. Et vous êtes arrivée là. Et là, vous êtes dit... Ok, je me pose.
Oui, je me pose parce que je crois que j'aime bien les endroits un peu compliqués et l'Alsace, c'est compliqué. L'Alsace, c'est une terre qui est toujours entre deux. Et finalement, un peu comme l'être humain, il est toujours entre deux états de conscience et d'inconscience, de progrès et de destruction. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Je suis aussi quelqu'un entre deux, parce que je suis née en Afrique, puis je suis arrivée en France et je ne sais pas trop où j'habite. Et je trouve que l'Alsace, c'est un endroit toujours flottant, où chacun finalement peut se sentir bienvenu, parce que personne n'appartient à la terre.
Comment on arrive à faire le lien entre l'histoire et puis ces bouts d'écologie qui renaissent ?
Tout simplement, l'histoire, c'est d'abord une géographie. L'histoire, c'est d'abord un paysage. Et quand on regarde, par exemple, l'histoire des nazis, c'est une histoire de prédation. Et c'est une histoire de prédation du territoire, du sous-sol, puisque c'est la vallée des deux grands camps nazis d'Alsace et donc de France, qui sont, d'une part, le camp d'internement de Schirmeck, et à 10 km de là, toujours dans la même vallée, le camp de concentration de Natzweiler.
Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration.
Les nazis sont venus construire ce camp à Natzweiler parce qu'ils voulaient prendre le granit qu'il y avait dans le sol. C'est une histoire de prédation.
Il y a du granit rose, il y avait du granit rose.
Donc c'est la prédation du bois, c'est la prédation de tout ce qui est cultivé. Donc le paysage, comme il sous-tend l'installation des hommes, il a partie liée avec l'histoire. Et cette vallée, elle a une histoire d'occupation humaine ancienne. Il y a eu les Mennonites. Il y a toute une histoire du fond de cette vallée qui était très reculée, où les enfants n'avaient pas accès à l'instruction et où des communautés religieuses sont venues pour essayer de développer une pédagogie originale. C'est aussi cette vallée, l'histoire du développement industriel, puisqu'on a du bois, on a de l'eau, et donc on a, dans les années 20, une importante industrie textile, non seulement avec des grandes usines, mais aussi chez les individus, avec des petits métiers à tisser, qui viennent compléter les ressources du travail des champs, qui est un peu modeste.
Ouais. Donc on est relié à cette matière première.
On est relié à la matière première. Et aujourd'hui, l'industrie du bois, elle est prégnante. On le voit autour de nous, ici, on est... dans une grande vallée humide avec des arbres tout autour. Et puis il y a cette scierie très importante, ouais, qui est, paraît-il, une des plus grandes d'Europe et qui fait vivre une partie de la vallée. Donc ça reste quelque chose de très présent. Regardez, Denis, vous la voyez, cette lumière qui revient là derrière l'église? On voit du rose, comme une espèce d'aurore boréale en plein soleil couchant. C'est très étrange ces jours-ci. Oui. Il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas complètement dans cette vallée.
Mais au contraire, c'est-à-dire que nous sommes des êtres qui sommes peut-être gouvernés aussi par l'invisible, c'est ça qui est bien.
Bien sûr, et je pense qu'il y a, dans ces endroits, ce n'est pas étonnant que des communautés religieuses se soient installées, parce qu'il y a quand même une force spirituelle tout à fait sensible, ouais, pour qui prend le temps de la ressentir.
Pour qu'elle soit préservée, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux humains que nous sommes? Parce qu'on voit bien que ça a été quand même une sacrée variable d'ajustement. Et en même temps, les êtres humains en ont besoin, vont la rechercher consciemment ou inconsciemment, mais sont aussi capables de la détruire.
Je pense qu'il manque la conscience du lendemain, il manque la conscience de ce qui va nous succéder, et que notre conscience, elle s'arrête souvent à la limite de nous-mêmes. Et donc la limite de nous-mêmes, c'est la limite de notre vie, à la limite celle de nos enfants. Et après, on n'est pas tellement capable de s'envisager dans une continuité. Et ouais, ce qui fait que la nature, elle n'a pas la durée d'une vie humaine. Elle vit sur un autre cycle, et c'est là qu'est le problème.
Quelle belle vallée, avec ses plaines, avec ses prés, avec ses reines, avec ses fées, elle est. Quelle belle vallée que je m'en vais te raconter, que je m'en vais te rencontrer à pied.
Allez, changement de lieu, toujours dans cette vallée de la Bruche, où là on l'entend d'ailleurs, plus que gazouiller, hein. C'est quand même là, Jean Vougel, quand même, ça va, elle est costaud. Petit affluent, et avec la Bruche qui est derrière. Alors Jean Vougel, en fait, là, c'était la route du sol, hein, ça. Là.
Tout à fait. Et donc, si vous voulez, on est dans une vallée qui, aujourd'hui, retrouve un peu sa forme qui existait il y a 100 ou 200 ans. C'est lié à l'histoire économique du massif vosgien. Dans les années 50, les paysans ouvriers prenaient leur retraite et le prix du bois était extrêmement élevé. Ils se sont rendus compte que propriétaires forestiers qui vendaient un hectare de belles forêts pouvaient construire une belle maison ou acheter un bel appartement à Strasbourg. Et ils se sont dit, moi avec mes 3 hectares en 10 ou 20 parcelles, je vais les repiquer en épicéa. Et puis dans 30 ou 50 ans, mes enfants achèteront un bel appartement à Strasbourg. Et c'est ce qui a été fait. On a même laissé les épicéas en pépinière qui étaient dans les jardins pousser. Et le paysage s'est complètement fermé. Et on a eu des vallées qui mouraient complètement, des villages qui se désertifiaient. Parce que bien entendu, derrière les maisons, il y avait déjà, 20 ans ou 30 ans après, des arbres de 30 mètres de haut qui prenaient toute la lumière et tout le soleil.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les mutations économiques ont profondément modifié l'aspect de la vallée de la Bruche. Aujourd'hui, la forêt a fermé le paysage et les épicéas remplacé les cultures. Une situation devenue préoccupante qui constitue un véritable handicap d'ailleurs pour le développement touristique.
Voilà par exemple le village de Natzwiller aujourd'hui. Comparé avec ce cliché pris dans les années 30 et remarquez ces dizaines d'hectares colorés en vert parfaitement nettoyés et cultivés. 60 ans plus tard, la forêt a gagné du terrain et la vallée a perdu de son charme.
Fort heureusement, Jean-Sébastien Laumont, vous qui êtes donc à la communauté de communes de cette vallée de la Bruche, vous êtes en charge de l'environnement et j'allais dire que vous êtes un homme d'ouverture, voire de réouverture, parce que ça a été aussi ça, le travail que vous avez effectué. C'est-à-dire que vous avez réussi à rencontrer beaucoup d'acteurs de ce territoire et leur dire qu'il faut peut-être un peu changer de regard sur le territoire.
Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit il faut que les gens ils aient un peu plus de soleil sur la tête. Et donc, il faut qu'on travaille cette question du paysage, ouais, et qu'on réouvre ces fonds de vallée et qu'on leur redonne un autre aspect. Et surtout, un aspect où on a une continuité ouverte le long de la route de la Bruche. La source de la Bruche jusqu'à Strasbourg, c'est 90 km. Donc, c'est une longue vallée. Notre territoire, communauté de communes, c'est 45 km. Et cet espace-là de fonds de vallée était complètement fermé, appartenant à beaucoup de propriétaires. Et on a travaillé avec des associations foncières pastorales, donc mobiliser les propriétaires pour enlever ces épicéas qui étaient présents dans ces fonds de vallée-là et remettre un espace pastoral, agricole, pâturé ou fauché par un grand nombre d'habitants. Ouais. Réinstaller des jeunes agriculteurs, des jeunes éleveurs sur le territoire, par cette ouverture des paysages, quoi.
Alors évidemment, tout ceci est fabriqué par les différentes parcelles et c'est là que Nathalie Chartoir intervient. Alors, vous êtes présidente de l'association foncière pastorale, qui est un outil hein, qui existe déjà depuis un paquet d'années donc, en France. Alors, votre travail avec les parcelles, qu'est-ce que c'est ?
Ces parcelles, à un moment donné, ont été abandonnées et elles ont été enfrichées et ne devenaient plus rien. Et à un moment donné, on s'est posé la question de que faire de ces parcelles. Et les propriétaires n'avaient pas les moyens forcément de les entretenir, de les remettre en état. Et grâce à l'outil AFP, on s'est dit qu'on allait peut-être faire de toutes ces petites parcelles divisées, en faire une grande. Et en fait, réunir tous les moyens en commun pour retravailler ces parcelles de manière globale, avoir une vision globale, une vision d'ensemble, de refaire une vie,
un dynamisme. Vous avez raccommodé, quoi. C'est un peu ça.
On a refait vivre, on a retissé des liens, on a remis un peu l'humain aussi, pas seulement la nature. C'est bien de refaire du beau paysage, les gens qui passent vont être contents. Mais les gens qui habitent aussi ont besoin d'avoir une dynamique, des liens. Et nous, le but, c'est de remettre après ces parcelles donc agrandies en état pour que des agriculteurs puissent travailler sur cet outil-là, en mettant des bêtes, en faisant les foins, que ça leur serve à eux. C'est un cercle vertueux, quelque part, parce que nous, on remet en état, alors on va faire travailler plein de gens. Mais au final, c'est l'agriculteur qui va continuer à entretenir. Et nous, on va l'aider aussi dans cet entretien. Et les gens qui ont envie de nous aider, il y a des bénévoles dans chaque AFP, parce que c'est une association, va donner son petit coup de main aussi et va faire revivre les choses. Donc il y a une dynamique multiple.
Alors restez avec nous parce qu'on va faire un petit tour aussi du côté de la Lorraine. Hein. Ben oui, sur l'autre versant, on reste bien sûr dans les Vosges, on va déborder un petit peu à cheval et puis après on reviendra dans la Bruche. Ah, tenez, un arbre du tordou du Lot-et-Garonne qui est peut-être pas très fort, tiens.
L'arbre va tomber, les branches salissaient les murs. Rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé, juste pour mettre des flèches et des cœurs. Mais l'arbre va tomber, le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, de la place au carrefour. L'homme est décidé et l'homme est le plus fort toujours. Ouh, c'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Tout faire dégringoler, l'arbre avec les oiseaux dedans. L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y'a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois. Ouh, un bout de forêt, avancer trop près des maisons. Et pendant qu'on parlait, l'arbre est tombé pour de bon. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient. Et toutes ces nuits d'hiver, quand les averses tombaient, oh, t'as dû en voir passer des cortèges de gourmets, des orages, des météores. Toutes ces nuits d'hiver, quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors.
dommage que ce garçon d'ailleurs ne réponde pas quand on lui propose 5 fois de faire une émission. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, il fait de belles chansons. Donc l'arbre va tomber. Nous restons dans les Vosges, mais il en faut donc pour les deux côtés. Changement de versant, donc on passe en Lorraine et on va retrouver un homme qui s'appelle Francis Dopf. Et cet homme-là, il est avec son cheval, il est débardeur à cheval. On est entre Cornimont et le Grand Ventron. Il n'y a plus de tétralyre, hein. Quasiment il n'y en a plus. On essaye de les réintroduire, mais dans le champ des forêts, c'était très clair. C'est voué gentiment à l'échec parce qu'il y a trop de dérangements. Et après, on reviendra donc dans la bruche. Oh là là, je vois un beau cheval.
Ist, on travaille, allez. Ist.
Un œil averti, vous direz qu'il a hérité du cul de l'Ardennais, qui est le point de force, hein, il n'y a pas de mystère du cheval de trait. Donc, disons, pour sa taille, c'est assez extraordinaire ce qu'il arrive à tirer. Bon, là, il frime un peu, parce que dès qu'il y a du public, il sait très bien que je ne peux pas me fâcher. Alors, il en profite sans scrupule.
Alors, quels sont les avantages, je dirais, écologiques du débardage à cheval? Parce que là, donc, nous sommes sur un chemin, on pourrait faire passer un bulle, et puis après, on aurait une piste, mais ce serait quand même sacrément défoncé.
Alors, écoutez, je peux être très franc. Ouais. D'une manière générale, disons, c'est pour la sauvegarde des peuplements, c'est-à-dire, il y a des effets, grosso modo, tassement du sol, limitation des dégâts aux arbres en place. Disons, c'est essentiellement pour des raisons sylvicoles. Ouais. Plus les arbres sur pied sont précieux, plus ça se justifie. Le souci, c'est le dégât au peuplement.
Et alors, pourquoi il y a une culture du débardage à cheval ici dans ce massif des Vosges, de même qu'il y avait la culture de la schlitte, enfin, c'est-à-dire du transport par luge?
D'abord parce qu'il y avait beaucoup de manœuvres, qui n'étaient pas chères, qu'on n'aurait pas toléré, à l'époque où la forêt était une grande rareté, on n'aurait pas toléré le moindre dégât aux arbres. Hein, j'ai encore vu des comptes rendus de procès-verbaux de la fin du 19e siècle, des gens qui avaient des procès parce qu'ils avaient fait ce qu'on fait là maintenant, tirer des bois tout droit dans la forêt, et sur le procès-verbal, il y avait mesuré en centimètres combien il y avait de dégâts sur les arbres et tout. Donc les chemins de schlitage, c'était la seule façon de passer. Oui. Hein, il y en a ici, bon, quelques-uns, si une fois vous avez le temps, c'est spectaculaire, c'est impressionnant aussi. Bon, quand on a été devenu un peu plus exigeant pour les hommes, on a vite arrêté ça, hein, comme on disait, bon, la grande classique, si on disait la schlitte crève à la montée et tue à la descente. Pour moi, dans mes proches voisins, hein, donc là où était mon grand-père retraité, le village de la Baroche, je ne compte pas le nombre de gens dont j'ai entendu parler. Quand j'étais gamin, les forêts étaient encore pleines de petites croix en souvenir des accidents de schlittage.
Là, vous venez de planter.
Alors là, ça s'appelle un crochet plantant, ou sauterelle, ou blitz en com. Il y a au moins 15 dénominations pour ça. La particularité, c'est que normalement, quand on tire à contresens, ça se décroche. Mani, doucement, doucement. Ishtrum. Voilà, vous avez vu le principe. Attention, vous êtes dans la trajectoire. Attention, attention, sauvez-vous vite.
Là, il faut expliquer que le tronc est parti tout seul, mais il n'y a pas de dégâts.
Non, mais c'était prévu, mais pas tout à fait là, quoi. Voilà, ça s'appelle du lançage. Hein. Alors d'habitude, on fait avec des quilles, mais...
Donc votre travail, c'est de sortir vraiment le bois des endroits difficiles.
C'est ce qu'on appelle le débuscage. C'est-à-dire là, on est dans le peuplement, vous voyez, il n'y a pas de passage tracteur. Sinon, le tracteur, il utilise un câble. Oui. Et il treuille. Bon, alors si ce gars a beaucoup de temps, qu'il est très soigneux, il tire bien. Mais comme il n'a que la ligne droite pour tirer, bon, y a des frottements au peuplement. Non, ich. Et commence pas à frimer, toi. Hein. C'est moi qui parle. Hein. Donc, les conditions normales d'emploi du cheval, là, c'est chaque fois entre deux chemins.
Ouais. Ça doit quand même vous faire, à lui comme à vous, pas mal de dénivelé dans la journée, ça. Hein.
Oui. Non, ça, c'est surtout du côté de Wildenstein. Alors là... Yep, mon grand. Baissez bien. Yep, dis. Ist. C'est pas parce qu'il y a du public. Ist. Baissez. Ist. Bon, tu. Ist. Je vais me fâcher. Ist.
Vous lui parlez, hein?
Oh, c'est un mélange d'alsacien, de vosgien. En fait, c'est un verrouillage pour le. On peut pas me le voler, quoi.
Oui. Wow. C'est un code.
Voilà, c'est un code. Oui. Quelqu'un qui essaye de me le piquer, il est dans le ravin au premier carrefour.
Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, Francis Dope. Vous saluez Mordi de ma part. Moi, je ne vais pas le caresser parce qu'on ne se connaît pas.
Et voilà,
pas
et puis raison. Alors, comme c'est un monsieur très spécial, enfin, maintenant, ce n'est pas grave, on termine, mais comme il a l'habitude, la caresse, c'est le signe que le travail est terminé. Si quelqu'un le fait avant la fin, c'est un peu comme un.
Je ne veux pas casser votre.
Voilà, je suis un peu comme un instit qui doit continuer la classe quand la cloche a sonné.
Une prairie dans la haute vallée de la Bruche, bordée de haies, ceinturée par la rivière, une prairie classique avec ses meules de foin et très discret ses petits canaux. L'eau vient donc de la Bruche et elle retourne à la Bruche à la fin d'un parcours d'un bon kilomètre et demi à travers la prairie.
Alors, Jean Vaugel, des montagnes, des prairies, de la forêt et évidemment l'eau. Ici, là, racontez-nous, en fait, comment ça se passe, parce qu'on voit qu'il y a différents canaux, là, je vois des petites mares, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici?
Alors, avec le géographe Jean-Luc Piermet, on s'est intéressé, voici une demi-douzaine d'années, aux pratiques anciennes agricoles dans le massif vosgien, et on a fait une découverte incroyable. Alors, on savait que l'irrigation était présente dans ces vallées, mais jamais on pensait qu'elle avait cette importance. Il faut savoir qu'au passage du 19e au 20e siècle, le département le plus arrosé par l'eau d'irrigation de France, c'était les Vosges.
Ah bon ?
Voilà. Et plus étonnant encore, c'est qu'on irriguait quand il pleuvait le plus. On n'irriguait pas en été, quand il manquait d'eau, on irriguait quand il pleuvait le plus.
Alors pourquoi est-ce que ça sert d'être contre-intuitif en fait ? Mais en fait, pas du tout.
Voilà, et donc on s'est demandé pourquoi. On a fait bien entendu de très longues recherches et on a trouvé une histoire assez incroyable parce que ce que je viens de dire là a attiré dans les Vosges les plus grands scientifiques français au milieu du 19e siècle qui ont fait des expérimentations fabuleuses et qui ont mis en évidence des choses extraordinaires. Il faut savoir qu'en irriguant quand il pleuvait le plus, sans apporter la moindre fumure dans ces vallées-là, les rendements étaient 2 à 3 fois, voire 4 fois supérieurs.
C'était pas de la magie, ça, Jean-Sébastien?
Non, c'est simplement du bon sens paysan ou de la logique agronomique où, en fait, on était avant pétrole, si on peut parler de la logique. Et donc, aujourd'hui, par le pétrole, hélas, on en a oublié ces fois de bonnes pratiques. Et donc, on détournait l'eau sur la Bruche, on la mettait dans des canaux et on arrosait par gravité les prairies, hein, pour être très technique et très concret. Et l'arrosement avait 2 gros avantages. Il servait à réchauffer le sol. On avait des hivers beaucoup plus froids et donc ça réchauffait. Donc, on a une végétation prairiale qui commençait beaucoup plus tôt en saison. Et on apportait de l'amendement naturel qui enrichissait. Avec une logique où l'eau, elle courait sur des sols qui n'étaient pas tout à fait plats, donc ça créait une mosaïque un peu de diversité, donc ça renforçait la biodiversité. Ça permettait de faire 3 ou 4 fauches par an, on exportait, donc ça nourrissait des animaux.
D'accord.
Et aujourd'hui, cette vertu-là, on la renforce avec la logique où, en fait, si on garde l'eau en tête de bassin, en amont avec de la Bruche, eh ben, on va rendre des services à nos amis de l'aval de la vallée, à Strasbourg, où en fait, on va garder l'eau, on aura moins
ça
de problèmes d'inondation.
Dans l'eau, quoi. Donc.
Exactement. Oui, et donc, notre sol de fond de vallée, qui est un sol agronomique, c'est aussi un sol éponge, c'est un sol qui a énormément de capacité, sur lequel il faut continuer à faire de la prairie, de l'activité, mais sur lequel, eh ben, on peut lui rendre ce service. D'autant plus qu'on aura moins de neige dans les années futures, donc il faut savoir garder l'eau en tête de ces vallées. Sinon, on va mourir de soif.
Nathalie Chartoir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas donc forcément cette vallée de la Bruche, bon, vous l'aimez, ok, mais j'ai presque dire pourquoi vous sentez bien vous ici?
Je suis d'origine vosgienne, j'ai vécu à Strasbourg et je suis une randonneuse et je venais très très souvent randonner ici. Et j'ai toujours adoré ce coin. Et j'ai adoré ce coin parce que historiquement, il y a eu le pasteur Oberlin ici qui a déjà fait beaucoup de choses assez révolutionnaires pour son époque, fin 18e siècle.
On va rappeler donc, qu'est-ce qu'il a fait?
Le pasteur Oberlin, c'est un peu l'inventeur de l'école maternelle, de l'éducation par le jeu, par le contact de la nature, par plein de connaissances qui sont très modernes, dans le sens où il arrivait à leur apprendre des choses géographiques, histoire, qu'on n'apprenait nulle part ailleurs. Il a complètement changé aussi l'agriculture, les systèmes d'irrigation aussi, pour que les paysans du coin arrivent à faire des richesses. Avoir de la richesse reste et prospère finalement, arrive à vivre bien. Il a changé aussi, par exemple, tout ce qui est architecture des maisons pour qu'elles soient plus saines. Et il a intégré l'hygiène. Et je veux dire par là que cette vallée, elle a toujours été dynamique, avant-gardiste aussi. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'ai redécouvert en m'installant ici il y a 7 ans. un dynamisme, une vie et un tissage humain aussi. Les paysages sont beaux, les gens sont sympas. Voilà,
allez.
On est bien.
Frédéric, là, vous m'emmenez à l'église d'Urmat. On entend déjà un peu des chants.
Oui, oui, parce qu'en fait, en arrivant en Alsace, j'ai compris que les Alsaciens étaient complètement fous de chorale.
Ah, ils sont malades de chorale,
ils sont malades de chorale, ils adorent. Et donc, il y a tout le temps des chorales dans les églises, presque tous les week-ends, et c'est bondé. Vous allez voir, il y a plein de monde. Et là, en plus, c'est une chorale de femmes qui chante des chansons en faveur de l'histoire et de la résistance des femmes. Donc, c'est vous dire ça me plaît.
Oui. Ouais, je vous l'ai dit, c'est du collectif, ça aussi. Donc, dans ce coin donc, des Vosges alsaciennes, c'était l'ensemble vocal féminin Opus, donc d'Urmat. Elle chante formidablement bien. Voilà. Camille Blanès, eh ben, on la remercie. On remercie aussi Anne-Laure Cochet qui a mixé ce reportage. Xavier Pestugia qui a trouvé tous les sons, qui a colorisé, qui a réalisé l'émission. Merci, cher Xavier. Thierry Dupin pour les disques. Et puis, la semaine prochaine, eh ben, c'est le printemps. Mais oui, figurez-vous, ça va être le 22 mars. Donc, on va le fêter dans différents lieux. On va partir au Québec, dans le Limousin, dans le Rhône. Enfin, j'en oublie. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn et puis aussi sur l'application Radio France. À la fois, vous avez les éditos de CO2 Mon Amour et puis vous avez donc l'ensemble de l'émission. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche.